11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Une nouvelle émission La Méridienne en partenariat avec la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire. On salue au passage Adeline Viou. Voilà, grâce à qui ce partenariat se poursuit depuis plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio trois invités avec lesquels nous parlerons de nature en ville, trois membres du laboratoire CITER. Alors, je vais vous les présenter. Il s'agit de Francesca Di Pietro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie de l'environnement, écologie du paysage. À côté de vous, il y a Amélie Robert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, voilà, vous faites partie de l'unité CITER, donc, ainsi que de l'Institut de l'Asie orientale de Lyon. En face de vous, il y a également Jean-Paul Carrière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite en aménagement de l'espace et urbanisme à l'Université de Tours. Et alors, chers invités, Radio Étudiante oblige, peut-être voudriez-vous commencer par expliquer à nos auditeurs ce qu'est le laboratoire CITER.
Alors très, très rapidement, hein, il s'agit de ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, c'est-à-dire un laboratoire qui est à la fois sous la tutelle de l'université et du CNRS, donc financé, cofinancé par les deux institutions, l'université et le CNRS. C'est un laboratoire interdisciplinaire, important par sa taille, puisqu'il y a environ 200 chercheurs juniors ou seniors. Quand je dis juniors, ce sont essentiellement les doctorants et seniors. Et l'objectif principal de ce laboratoire, c'est d'analyser les interactions entre l'espace urbanisé, les territoires et les sociétés. Et puis l'équipe DAT, qui est notre équipe, dynamique et action territoriale et environnementale. DAT, qui a pour objet essentiellement l'analyse des relations entre espace, société, environnement, selon une approche là aussi interdisciplinaire, parce que l'interdisciplinarité, c'est vraiment la marque de fabrique de ce laboratoire, de cette UMR, en intégrant donc, pour ce qui concerne DAT, des apports des sciences de l'environnement. Nous avons plusieurs chercheurs qui viennent de ces disciplines et des sciences humaines et sociales, et notamment, évidemment, des sciences humaines et sociales en relation avec le territoire.
Est-ce que vous voudriez nous donner à voir quels sont, vous, vos domaines de compétences?
Effectivement, je peux commencer. Alors, moi, je suis biogéographe. Et puis, je travaille en particulier sur les espaces semi-naturels qui sont associés, très associés à l'action humaine, donc à la végétation. Donc, je travaille sur la végétation telle qu'elle est modifiée, très modifiée par les sociétés. Donc, j'ai travaillé sur les espaces agricoles. Et là, je travaille depuis plusieurs années, quasi exclusivement, sur les espaces urbains. Et je regarde donc comment cette végétation modifiée par les sociétés, par les villes, donc des espaces verts publics, mais aussi des friches urbaines, des jardins ou des bords de route, hein, comment cette végétation, à la fois... elle est d'abord de quoi elle est caractérisée, hein, sur le plan botanique, et puis comment elle est utilisée par les habitants des villes et comment elle est considérée, hein, comment quelles sont les opinions, les représentations qu'ont les habitants de cette nature-là.
Alors, donc moi, je suis donc géographe également biogéographe, et je m'intéresse aussi plutôt à la composante végétale des milieux. Plus généralement, donc, c'est les interrelations société-environnement qui m'intéressent, que j'appréhende par les concepts de paysage et de services écosystémiques. Donc, les services écosystémiques, ça va être tout ce que la nature va apporter à l'homme. Donc, je m'intéresse à ce lien société-environnement, mais donc plutôt société-végétale, dans différents contextes, sur différents terrains, en France, mais aussi à l'étranger. Et en considérant le végétal sous ses différentes formes, à la fois spontanées, cultivées, également plantées. Peut-être pour préciser, en fait, donc sur ce lien entre la société et le végétal, c'est tout ce que va apporter le végétal à la société, et donc notamment en termes de bien-être, également, enfin, particulièrement dans les milieux urbains, où le végétal va participer à ce bien-être et à la qualité de vie en ville.
Bon, et moi, bien, écoutez, ça remonte à un passé assez lointain, mais... je suis économiste de formation à l'origine, mais très tôt, je me suis tourné vers les questions de la ville et des territoires, ne serait-ce qu'à travers mon doctorat qui concernait l'économie urbaine. Et assez rapidement, eh bien, je me suis orienté complètement vers l'aménagement et l'urbanisme. Et donc, dans ce contexte-là, J'ai été amené, là je parle plutôt des années un peu plus récentes, j'ai été amené à développer des travaux sur la question générale, à la fois sur un plan conceptuel et puis sur un plan, j'allais dire, praxéologique, de mise en application, la question du développement territorial durable. Comment on peut concevoir un développement local combiné avec des principes de développement durable, parce que ce sont deux approches a priori différentes. Et ceci à différentes échelles territoriales, qui vont de l'intra-urbain, du quartier, jusqu'au niveau régional, voire même interrégional. Et dans mes travaux, j'ai toujours eu le souci, enfin j'ai souvent le souci d'inclure une dimension prospective et en même temps de faire appel à l'analyse internationale comparée. Puisque, et ça va nous amener un peu au sujet du jour, hein, puisque parmi mes terrains de recherche privilégiés, eh bien, ça peut paraître un peu bizarre comme combinaison, mais je travaille beaucoup d'abord au Portugal et ensuite au Brésil, d'une part, et d'autre part en Roumanie. Donc ce sont deux terrains d'observation, des laboratoires en vraie grandeur, qui me permettent d'analyser finalement des situations françaises par comparaison avec d'autres contextes.
Alors juste peut-être préciser, qu'est-ce que c'est une démarche prospective ?
Une démarche prospective, c'est une démarche qui essaye d'envisager des évolutions plausibles. Ce n'est pas de la prévision, hein, soyons clairs. La prospective ne se définit pas comme étant de la prévision. Il s'agit d'explorer des scénarios plausibles d'évolution d'une situation donnée sous des jeux d'hypothèses contrastées. Il ne s'agit donc pas de proposer une vision du futur, mais de proposer des visions de ce que peut devenir un territoire, une région, etc.
Et je crois que vous nous avez choisi justement des musiques. Alors, que va-t-on écouter ? Je me tourne vers Francesca Di Pietro.
Ah ben, on pourrait écouter Jenny Jenny. J'ai bien aimé ce morceau de musique, voilà, d'un groupe allemand.
Alors on écoute ça, on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tour.
Der Tag beginnt im Spiegel. Müde Augen werden wach geschminkt. Rot die Ziegel und dann der Kaffee, den sie jeden Morgen trinkt. Und sie trägt blau und gelb. Sie sagt, sie wäre so gern fest angestellt. Sie sagt, die Welt ist kleiner, wenn du jeden Tag fliegst. Jenny, Jenny, lächelt einfach immer weiter, so wie alle Flugbegleiter. Jenny, Wolkenreiter, Jenny, Jenny, Wolkenreiter, lächelt einfach immer weiter, wie alle Flugbegleiter. Jenny, Wolkenreiter. Und nach jeder Landung ist sie das Lächeln in der Brandung. Zwischen 1000 Passagieren, die nicht warten wollen auf die Passkontrollen und den Zoll. Und dann 3 Stunden auf Enthalt. Jenny trinkt den Kaffee kalt. Und sie googelt Panama. Vor 2 Jahren war sie mal 10 Minuten da. Oh, Panama. Sie kommt nach Hause und weiß.
weiß nicht woher. Jenny, Jenny, Wolkenreiter, lächelt einfach immer weiter, so wie alle Flugbegleiter. Jenny, Wolkenreiter, Jenny, Jenny, Wolkenreiter, lächelt einfach immer weiter, so wie alle Flugbegleiter. Jenny, Wolkenreiter, oh Panama, oh Panama, oh Panama, oh Panama. Willkommen an Bord.
Jenny, Jenny, dans la Méridienne sur Radio Campus Tour. Merci Francesca Di Pietro pour cette pause musicale. Alors, je suis toujours en studio avec Jean-Paul Carrière, Francesca Di Pietro et Amélie Robert. Vous êtes venus nous parler, entre autres choses, de ces deux ouvrages donc parus l'été dernier, Faire nature en ville et la transformation urbaine au prisme de la nature, paru chez L'Harmattan. Peut-être voudriez-vous dire tout d'abord un mot sur les co-auteurs qui ont participé à ces ouvrages avec vous trois.
Oui, alors il faut préciser effectivement que ce sont deux ouvrages collectifs dont la réalisation a été coordonnée évidemment par nous trois, mais aussi par deux collègues qui n'ont pas pu être présents avec nous aujourd'hui. D'une part, Abdelila Hamdouche, qui est professeur d'aménagement et urbanisme à Polytech Tours, qui est aussi vice-président de l'association Ville au Carré, qui est assez connue sur la place de Tours et dans la région Centre-Val de Loire. Et puis, d'autre part, Adila Hamdouche travaille essentiellement sur le thème de la résilience territoriale et la place de l'innovation dans le développement des territoires. Et puis, d'autre part, José Serrano, qui lui est responsable d'ailleurs de l'équipe DAT actuellement au sein de l'UMR Citerre, qui est professeur également d'aménagement de l'espace et urbanisme. Et José a beaucoup travaillé sur les développements de l'agriculture périurbaine et sur la question de la gestion des sols. Ce sont les thèmes principaux de ces travaux. Ce qui explique évidemment directement sa participation au projet de ces deux ouvrages.
Alors ces deux ouvrages, quelle est leur histoire en fait, d'où viennent-ils? Je crois que ils sont liés à un colloque que vous aviez organisé en 2018.
Oui. Alors c'est une longue histoire que je vais essayer quand même de résumer de façon simple. Depuis 2010, si ma mémoire est bonne, les instituts d'aménagement et d'urbanisme qui existent en France et qui participent à une association qui s'appelle l'Association pour la promotion de l'enseignement et la recherche en aménagement et urbanisme, d'une part, et son homologue, plus ou moins son homologue brésilienne, qui s'appelle l'ANPUR. Depuis 2010, donc, ces deux associations et les institutions qui les composent organisent régulièrement, tous les deux ans, des échanges, principalement sous forme de colloques, alternativement dans un pays lusophone ou dans un pays francophone. Au départ, c'était des échanges strictement franco-brésiliens, mais il a été décidé, il y a quelques années, de les élargir à la fois au monde francophone et au monde lusophone. Et donc, ça prend la forme de ce qu'on appelle, dans le cadre d'un programme Attilio. Attilio, c'est le nom du premier urbaniste brésilien qui a soutenu sa thèse en France en 1930. Dans le cadre de ce programme Attilio, donc, ces manifestations donnent lieu à ce qu'on appelle des dialogues franco-lusophones en aménagement et urbanisme. Et ce que nous avons organisé à Tours, c'est la cinquième édition de ces dialogues. Il y en avait eu précédemment en France ou au Brésil. Et la sixième édition, d'ailleurs, vient de se tenir, mais vu les circonstances, strictement en visioconférence. Et, alors, c'est à Tours, nous avions choisi, là, les deux associations tutélaires, si je puis dire, nous avaient laissé le choix de la thématique. Compte tenu de la spécificité de l'UMR CETER, nous avions proposé comme thème sur cette question du rapport entre nature et ville. Et c'est à partir de ce colloque qu'ont été réalisés les deux ouvrages. J'ajoute au passage que, indépendamment de ces deux ouvrages, Il a été tiré aussi de ce colloque le numéro spécial d'une revue brésilienne, où là les articles sont soit en français, soit en portugais, la revue Risco, qui a repris également d'autres thèmes qui avaient été abordés pendant ce colloque. Donc les deux ouvrages, ils sont directement, ils s'inscrivent directement dans le prolongement du colloque. Les auteurs qui avaient participé au colloque, pas tous, hein, mais ceux qui avaient été retenus, les auteurs ont retravaillé leurs textes et leurs interventions du colloque pour aboutir à cet ouvrage. Et tous les cinq, eh bien, nous avons assuré la coordination des travaux menés par les différents chercheurs.
Le point que je voulais aussi souligner, c'est Muriel Ourrier qui nous a aussi apporté son aide pour la mise en forme et qui nous aide également dans la communication pour faire la promotion de l'ouvrage. Et donc, on en profite pour la remercier au passage.
Et on va la remercier très vivement parce qu'elle a fait un énorme travail de composition. Nous, nous ne sommes pas spécialement compétents dans cet aspect-là. Et donc, c'est elle qui a fait la mise en page, la construction véritablement graphique hein, de l'ouvrage. Et ça, c'est très important parce que un ouvrage mal composé, c'est un ouvrage qui ne se lit pas.
Et avec un gros travail, surtout de tri et de mise en forme de la bibliographie qui représente un temps assez conséquent.
Alors justement, puisque vous parlez de temps, Amélie Robert, est-ce que vous voudriez donner à voir à nos auditeurs donc combien de temps ça nécessite pour relire, pour trier, pour faire des corrections, pour renvoyer les articles, pour les recevoir à nouveau, pour les mettre en forme? On imagine ça va être un temps phénoménal.
C'est assez chronophage, effectivement. Alors là, on avait la chance d'être cinq, donc on s'est quand même partagé un peu le travail. Ça aide quand même beaucoup. On a quand même relevé le défi en 2 ans, hein, c'est ça, après le colloque à publier, donc ce qui est un temps relativement honorable, même si le parcours a été un peu rallongé par certains obstacles qu'on a pu avoir, mais parfois ça peut être aussi plus long. Donc on a réussi à relever le défi dans un temps relativement court. Mais c'est vrai que ça prend effectivement beaucoup de temps d'échange avec chacun des auteurs, de relecture, de vérification. Ça prend du temps.
Eh bien, avant de pouvoir parler plus en détail de ce qu'il y a dans ces ouvrages, voilà, parce que là on a quand même donner envie à nos auditeurs de les lire, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Ouais. Alors, que va-t-on écouter cette fois-ci?
Peut-être Mozambique.
Mozambique. Donc, c'est Richard Galliano et Michel Portal. On écoute ça dans la Méridienne et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Applaudissements pour Richard Galliano et Michel Portal. Es-tu là, auditeur ? Nous l'espérons, voilà. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours. Alors, nous parlions de deux ouvrages parus récemment chez L'Harmattan, La transformation urbaine au prisme de la nature, faire nature en ville. Avec moi en studio, trois des cinq auteurs qui ont coordonné ces deux ouvrages. Il s'agit de Jean-Paul Carrière, Francesca Di Pietro et Amélie Robert. Et je pense que vous bouillez d'impatience d'en dire plus sur le contenu de ces ouvrages. Alors, quelques questions qui traversent justement le lecteur. Donc je me tourne vers Francesca Di Pietro. Pourquoi la ville dénature-t-elle l'espace ?
Alors, ben le fait urbain lui-même, la construction des villes, évidemment, ça prend de l'espace sur des... Ça s'occupe la place de milieux qui avant étaient semi-naturels. C'était souvent des champs. Bien souvent, c'était des espaces dévolus à l'agriculture. Ça peut être des bois, voilà, ou des prairies. En tout cas, effectivement, on peut dire que avec l'urbanisation, l'espace naturel ou semi-naturel diminue. Hein. Donc, certainement, on peut dire que de ce point de vue-là, la ville dénature l'espace, dans ce sens-là. Mais c'est vrai, par ailleurs, que la nature est de plus en plus reconnue aujourd'hui comme un besoin essentiel des humains et des habitants des villes. Et donc, la présence d'espaces verts dans les villes est de plus en plus légitime. Bon, elle n'est pas nouvelle, hein, donc il y a toute une histoire des espaces de nature en ville. Ils ont eu plusieurs fonctions au cours de l'histoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des espaces, il existe effectivement des espaces semi-naturels dans les villes et ils ont une légitimité à être étudiés. Ils ont été longtemps délaissés, je dirais, par les chercheurs parce que pour les écologues, ce n'était pas de la vraie nature, c'était une nature bien trop artificielle pour être digne d'intérêt. Et puis, en revanche, pour les urbanistes, eh bien, justement, c'était bien trop... Pas assez bâti, pas assez minéral. Ce n'était pas l'objet principal de l'urbanisme, de faire des espaces naturels. Souvent, dans les projets urbains, les espaces naturels, c'est un petit peu ce qui reste, hein, ce que n'est pas apte à être urbanisé. C'est un peu des délaissés, finalement. Voilà. Et du coup, ça a été longtemps, on s'y est pas beaucoup intéressé, alors qu'aujourd'hui, ça apparaît comme, finalement, la nature, une infrastructure indispensable dans les villes, hein, comme bien d'autres infrastructures urbaines. Voilà, c'est reconnu comme un besoin des humains.
Alors pour autant, est-ce qu'on peut dire que la nature en ville, c'est une fausse nature ? Est-ce que c'est une fausse nature ?
Alors on peut dire que c'est une nature qui est le résultat d'une action humaine. Alors est-ce qui est le résultat d'une action humaine est forcément contre la nature, anti-nature ou naturel, je dirais, je pense pas, mais c'est une nature effectivement qui est le résultat d'une action d'aménagement, donc pour les espaces verts publics par exemple, ou les jardins, donc des espaces qui sont effectivement très contrôlés par les humains, soit finalement c'est le résultat d'une, justement un peu de manque d'investissement. C'est le cas des délaissés urbains, des friches urbaines, hein. C'est effectivement des espaces dans lesquels la nature se développe relativement spontanément. Hein. C'est peut-être les espaces les plus spontanés en termes de végétation dans les villes.
Je vais rajouter un petit quelque chose, hein, sur ce sujet, parce que tout à fait en accord évidemment avec ce que vient de dire Francesca, mais avec peut-être quelques nuances. C'est vrai que, comme le disent les spécialistes dans leur jargon, la nature en ville est une nature anthropisée, c'est-à-dire une nature façonnée par l'homme, en fait. Hein. Mais il n'en reste pas moins que, dans certaines circonstances, il y a encore des reliquats de ce que je pourrais appeler la nature primitive. Et là, je pense au cas des villes brésiliennes, sur lesquelles on a bien travaillé, où on a eu des apports. Hein, et on en retrouve des traces dans les deux ouvrages, mais pas seulement dans les deux ouvrages, ailleurs aussi. Où vous avez encore actuellement des reliquats de cette nature primitive, soit sous forme de forêt, la Mata Atlantica, par exemple. Vous avez des îlots de forêt qui sont restés inclus dans les espaces urbains. Je pense par exemple au cas d'une mégapole comme Recife, hein, où vous avez des morceaux de forêt à l'intérieur de la ville. Vous avez de la mangrove hein, sur les bords des fleuves, etc. On retrouve encore des restes de cette nature originelle, peut-être plutôt que primitive, hein, cette nature originelle. Et ceci étant, ce sont d'une part des espaces naturels à très haute valeur, notamment en termes de biodiversité, de préservation de la biodiversité, donc il est souhaitable de pouvoir les préserver. Mais ce sont en même temps des espaces extrêmement fragiles, d'ailleurs qui sont en régression, hein, on le voit bien dans le cas, je prends le cas de Recife, c'est particulièrement clair dans ce cas-là, des espaces qui sont en régression, et il se trouve, et là on est dans une situation paradoxale, ce sont des espaces à haute valeur environnementale, mais qui sont très fortement, pas rejetés, mais qui sont très, très fortement dévalorisés sur le plan social. Et quand on regarde ce qu'est le jeu du système de production du cadre bâti dans son ensemble, et des promoteurs immobiliers en particulier, on voit qu'ils cherchent, consciemment ou pas, à reléguer les populations les plus pauvres, dans le cas du Brésil, c'est assez net, dans ces espaces qui sont dépourvus d'équipements, etc., d'assainissement, et ainsi de suite. Et donc, on a un paradoxe, c'est que ce sont des espaces à très haute valeur environnementale, mais dévalorisés socialement. Et donc, il y a une problématique très forte qui est de savoir comment on peut faire pour justement inverser cette logique, c'est-à-dire à la fois revaloriser socialement ces espaces pour en assurer la préservation écologique. C'est très complexe comme relation.
Peut-être pour faire le lien avec nos ouvrages, en fait, effectivement, il y a une forte évolution de la manière de considérer la nature en ville, et ça se perçoit en fait sur les différents terrains et dans les différents chapitres, notamment du premier ouvrage qui est Faire nature en ville. Où notamment l'un des chapitres porte sur cette nature enterrée, hein, qui est en fait un cours d'eau de Sao Paulo, hein, qui a été enterré et qui montre bien que cette ville, pardon, elle se construit au détriment de la nature par fait. Hein. Pour autant, cette nature, elle reste quand même dans la mémoire de ses habitants, et elle est de plus en plus prégnante, cette nature, dans le désir des citadins. Ce qui fait qu'effectivement, il y a cette évolution du regard dont parlait Francesca au profit donc, de la préservation de ce qui peut rester de nature, hein, une nature qui peut parfois être originelle, hein, qui peut parfois avoir été conservée. Il y a un regain d'intérêt pour ces différents éléments de nature. Et peut-être que, toujours pour faire le lien avec les ouvrages, sur la présence de la biodiversité qui est présente encore en ville et qui questionne donc, l'idée est-ce que c'est une fausse nature ou pas, c'est plus dans le second ouvrage, donc la transformation au prisme de la nature, qui le montre en montrant que même dans des espaces cultivés, on peut retrouver de la biodiversité, montrant que c'est quand même la nature, puisque c'est quand même de la végétation qui se développe spontanément, et puis il y a aussi les cours d'eau hein, qui participent aussi de la présence de cette nature.
Si jamais des élus ou autres avaient un regret sur l'idée d'avoir, par exemple, enterré un cours d'eau ou rasé une forêt ou quelque chose de cet ordre-là, est-ce qu'on peut supposer qu'une renaturation serait possible ? Comment ça pourrait être possible ?
Alors, cette question de renaturation, il faut effectivement utiliser ce terme avec prudence. On ne revient pas à un stade intérieur à l'urbanisation. D'autant plus, cette idée même de nature précédente est assez discutable. Hein. Qu'est-ce que, de quelle nature parle-t-on? Quel est le point de référence? Est-ce que c'est le 19e siècle? Est-ce que c'est avant l'industrialisation? Est-ce que c'est avant le développement de l'urbanisation vers la fin du Moyen-Âge? Est-ce que c'est à l'époque antique? Et même à l'époque antique, quel moment? Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette nature antérieure qui ne serait pas touchée par l'homme? Bon, c'est quelque chose d'assez discutable et c'est plus une espèce de figure un peu imaginaire, hein, d'une nature qui ne serait pas touchée par les sociétés qu'une réalité, en fait. Donc, il ne s'agit pas de revenir à cette nature-là. Par contre, réintroduire de la nature dans les villes pour satisfaire des besoins indispensables des habitants des villes, des besoins physiques, hein, d'espace non construit, et aussi des besoins psychologiques. Hein, donc ça, c'est les liens entre la nature en ville et la santé physique et mentale des habitants sont de plus en plus étudiés. Ça, par contre, renaturer dans ce sens-là, de réintroduire de la nature, qui n'est pas la nature originelle, qui n'est pas la nature intérieure, mais de la nature en ville, oui, ça, c'est un vrai enjeu de société aujourd'hui.
Est-ce que des jardins ouvriers, ça peut marcher? Enfin, des jardins dits ouvriers? Est-ce que ça peut faire partie
Alors, une première chose à dire, c'est que ce que nous montrons aussi, notamment dans la transformation urbaine au prisme de la nature, c'est que bien des projets de verdissement des villes répondent à des objectifs un peu de marketing urbain plus qu'à des besoins des habitants. Hein. Ça, c'est un premier élément. Effectivement, les habitants sont souvent absents dans ces choix, donc ça répond à un objectif d'attraction des entreprises. Voilà, ça s'adresse assez peu aux habitants des villes. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les quartiers populaires sont particulièrement déficitaires en espace vert. Ou alors, ils ont surtout des espaces verts extrêmement simples. Hein, donc, ce sont les pelouses des grands ensembles. Donc, on voit bien que la végétalisation des villes répond... Ça accompagne un petit peu aussi un processus de gentrification. Hein. Donc les espaces sur lesquels on investit, y compris en termes d'espaces verts publics, sont souvent des quartiers qui sont, qui sont pas destinés vraiment aux classes populaires. Hein. Et ça donne de la valeur à un espace, ça donne de la valeur à un quartier et ça accompagne généralement un changement de population des quartiers. Ça, ce sont des éléments. Donc, bien entendu, le verdissement des villes n'échappe pas à ce qu'on appelle en géographie la ségrégation socio-spatiale dans les villes. Hein. Donc, il y a effectivement des quartiers plus verts dans lesquels il y a des espaces verts plus entretenus, plus soignés, qui sont aussi des quartiers plus bourgeois, plus petits bourgeois. Voilà. Donc, effectivement, il y a un gros déficit d'espaces verts, notamment dans les quartiers populaires, et d'espaces verts de qualité. Hein. Alors, comment verdir? Vous parlez des jardins ouvriers. Effectivement, il y a des nouvelles formes. Alors, des formes relativement récentes, on peut dire, d'introduction du vert, des espaces verts dans les villes. C'est effectivement les jardins ouvriers. Les jardins, alors, il y a plusieurs types de jardins collectifs. Hein, les jardins ouvriers qui sont divisés en parcelles individuelles ou des parcelles plus collectives et qui sont vraiment comme des jardins de pied d'immeuble ou des choses comme ça, qui sont... Qui demande une attitude plus active de la part des habitants, hein, parce qu'il s'agit vraiment de les associer à l'entretien de ces espaces. Il y a aussi d'autres formes paradoxales un peu de nature en ville, comme les friches urbaines, par exemple. Les friches urbaines, de fait, sont des espaces que parfois sont utilisés par des habitants, mais qui font l'objet d'usages totalement informels. Alors, ça échappe complètement au domaine de la planification. Et puis, il y a la forme traditionnelle d'introduction d'espaces verts publics, de véritables parcs, que pour l'instant, nous connaissons surtout dans les centres-villes, hein, donc dans les quartiers effectivement moins populaires.
Oui, peut-être. En centre-ville, ce sont surtout plutôt des jardins historiques, plutôt des jardins d'agrément où les riverains vont venir se détendre. Et puis à l'extérieur des villes, comme par exemple en périphérie, comme par exemple la Gloriette, on va avoir des espaces verts qui vont être plus vastes, plus récents, et qui vont être destinés à un autre public. C'est pas forcément, enfin, à d'autres usagers. C'est pas forcément des riverains. C'est des personnes qui vont parcourir de plus grandes distances le plus souvent. Ça va être des familles qui vont venir là le week-end. Voulais aussi souligner, peut-être rajouter, par rapport aux différentes formes de nature qui apparaissent dans la ville, il y a aussi une volonté des citadins de devenir de plus en plus actifs. On le voit avec les jardinières masquées, notamment aussi à Tours, hein, où ce sont des citadins qui prennent l'initiative de s'impliquer dans l'apparition de ces espaces verts.
Et le cap de la ville de Tours est intéressant parce qu'on a effectivement toute une palette de, finalement, de modèles d'espaces verts qu'on retrouve aussi dans beaucoup de villes européennes et même de, d'autres continents. C'est le cas de, des parcs, je dirais, de la ville classique, hein, avec des jardins un peu à la française, extrêmement géométriques, extrêmement contrôlés, comme le jardin des Beaux-Arts que vous avez évoqué. Et puis c'est le cas de ces parcs, de, du parc public tel qu'il émerge de la deuxième partie du 19e siècle, donc le parc haussmannien. Avec une nature un peu, on peut dire un parc un peu à l'anglaise, donc une nature faussement sauvage, donc du sauvage un peu reconstitué entièrement avec la présence souvent d'eau, de bassins aquatiques, de petites îles, de voilà, c'est le cas des Prébendes. Alors c'était tout un parc qui avait un peu un... c'est le, la, le premier modèle vraiment de parc public, hein, vraiment destiné à accueillir un public et qui avait à l'origine un peu un objectif, un peu d'éducation, un peu à, au mode de vie un peu bourgeois, un peu d'éducation des classes populaires voilà, à se comporter d'une certaine façon. Ça, paradoxalement, par rapport à, cette, à ce parc où donc, il faut, voilà, les pelouses sont interdites, etc., eh bien, finalement, on s'est rendu compte que les classes populaires utilisaient d'autres espaces qui sont totalement... antinomique par rapport à ça. Ce sont les friches urbaines, donc des espaces délaissés, donc des espaces un peu de liberté dans lesquels on pouvait effectivement marcher évidemment sur les pelouses qui n'en étaient pas de véritables d'ailleurs. Et cette... alors, ce n'est que au cours du XXe siècle que les espaces verts ont été intégrés, ont été associés à l'habitat populaire, d'abord avec les cités-jardins et puis avec les pelouses un peu des grands ensembles. Mais on peut s'interroger sur l'appropriation et la valeur de ces grandes pelouses qui sont très peu entretenues finalement, hein, qui sont très peu diversifiées aussi.
Ce que l'on observe aussi, c'est véritablement aujourd'hui une diversification des différentes formes de nature, ce que l'on perçoit notamment dans l'ouvrage « La transformation urbaine au prisme de la nature ». On a effectivement les friches, on a tout ce qui va être aussi toiture végétalisée. Et puis on a également de plus en plus ce qui apparaît, c'est aussi la nature comestible qui tend à se développer. Et par exemple, pour Tours Métropole Val-de-Loire, c'est la volonté de développer des zones de maraîchage dans ou à proximité de la ville qui participent aussi. Alors c'est une nature cultivée, mais c'est quand même une forme de nature. Et puis avec un intérêt pour la ville, c'est que c'est des espaces de nature qui n'ont pas à entretenir, parce que le coût des espaces verts est aussi à prendre en compte pour la ville. Parce qu'il n'y a pas de retombées directes, en tout cas financières. Elles vont être indirectes en termes d'attrait de la ville, mais pas...
Ah oui, là, je te rejoins tout à fait. Hein. L'engouement récent aussi de la participation des citoyens, des habitants des villes à ces espaces-là, c'est aussi une façon pour les collectivités locales de se décharger d'une partie des coûts d'entretien.
Et pour revenir sur les aménagements des jardins, en particulier par les jardins réalisés dans les centres historiques, et on a notamment un chapitre qui compare principalement deux villes qui ont chacune une histoire très riche, hein, Salvador de Bahia au Brésil et Tours en France. Donc. Et la conclusion qui se dégage de cette comparaison, c'est que si les procédures sont très différentes, si les législations sont très différentes, par contre les finalités des réalisations dans ces deux villes sont, dans les centres historiques, hein, de ces deux villes, sont finalement très comparables. Ils peuvent s'analyser en termes principalement de marketing urbain, hein, c'est-à-dire d'amélioration de l'image, de revalorisation de l'image d'une ville.
En fait, on peut, je pense, parler d'une mondialisation de la nature en ville.
Ah, tout à fait.
Véritablement, on voit, en tout cas, les espaces verts urbains, l'entité espace vert urbain, on la retrouve dans toutes les villes au Brésil. On la retrouve également au Vietnam sous des formes un peu identiques, avec quelques peut-être différences. Mais véritablement, je pense, et on s'était posé la question justement avec Francesca, on peut véritablement parler d'une mondialisation de ces formes de nature.
Alors, mondialisation qui s'accompagne d'une forme de mimétisme.
Tout à fait.
C'est-à-dire que ce sont des modèles qui se déclinent peut-être pas à l'infini, mais qui se répliquent en tout cas à travers des systèmes nationaux qui peuvent être très très contrastés.
Oui, tout à fait. Si on peut dire que le rapport des habitants, des humains à la nature varie en fonction des aires culturelles, on peut dire aussi que l'urbanisation finalement rapproche énormément ces conceptions de la nature, hein, et on retrouve un rapport à la nature effectivement convergent, de plus en plus proche dans les différents, dans les différents continents, parce qu'on retrouve les mêmes modèles, les mêmes grands modèles un peu d'espace vert urbain, hein, qui se retrouve dans les villes de continents très différents. Oui.
Et alors, on a vu apparaître, à Tournord, je reviens bassement sur la ville de Tours, un éco-quartier. Alors ça, où ça se situe, un éco-quartier ? C'est ce que c'est du marketing naturel aussi, ou est-ce qu'il y a un vrai enjeu citoyen derrière ça ?
Il y a plusieurs aspects dans les écoquartiers. Donc, par exemple, la question de la gestion alternative des eaux pluviales, c'est un élément intéressant qui devrait d'ailleurs être appliqué en général à tous les quartiers, y compris aux quartiers anciens. Voilà, une façon de gérer les eaux pluviales de façon à ce que ça ne surcharge pas le réseau actuel et que ça ne fragilise pas la ville vis-à-vis du risque inondation, par exemple. Donc, il y a des éléments peu factuels, matériels, dans les écoquartiers qui sont intéressants, qui devraient dépasser effectivement des quartiers qui sont destinés à une frange relativement aisée de la population. Et puis il y a en partie un effet effectivement un peu de marketing. Aujourd'hui, on construit plus que des écoquartiers, on dirait, sur le papier.
Oui, au point que même l'écoquartier, donc, qui est présenté comme un quartier plus soucieux de l'environnement, ça peut être aussi un prétexte finalement à urbaniser des espaces de nature. Donc, c'est un peu le pendant et le problème, c'est que voilà, on présente cela comme étant un espace plutôt écologique, mais finalement qui vient se développer comme toute urbanisation au détriment d'espaces naturels parfois.
Peut-être que déjà depuis que le colloque s'est déroulé, les choses ont évolué et qu'aujourd'hui on dirait plus exactement ce qu'on a mis. Ce qu'on disait en 2018, en tout cas au moment où on a réalisé le colloque, on se rend compte que sous la pression des changements globaux, et parmi les changements globaux, j'inclus évidemment le changement climatique et le déclin de la biodiversité. Il n'y a pas que ça comme changement global, hein, mais c'est les deux majeurs. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une exigence qui s'impose à tous d'essayer de repenser quand même la façon dont on fabrique la ville. Et on est amené à prendre en compte des paramètres qu'on ignorait il y a quelques années. Et je pense que si on voit évoluer la planification urbaine aujourd'hui vers des formes, j'allais dire, moins ordonnatrices, plus flexibles, c'est aussi parce qu'on est à la recherche d'adaptations en réponse à ces changements globaux. Alors, ces adaptations, elles se font par tâtonnement, parfois avec des erreurs, parfois avec de belles expériences, de belles réussites, mais on voit des innovations qui émergent en matière d'aménagement urbain, qui émergent sous la pression des faits, donc du changement climatique et du déclin de la biodiversité.
Oui, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les réponses ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Hein. Les parcs publics qu'on voit se créer encore aujourd'hui sont souvent effectivement marqués par le marketing urbain, donc plutôt par l'image, l'idée d'attirer des entreprises. Mais aussi, ils sont souvent dus à des opportunités. Ce sont souvent des espaces qui ne sont pas constructibles, donc qui ne sont pas intéressants pour les promoteurs, qui peuvent avoir cette destination-là. Mais on est loin de voir la nature en ville s'imposer comme une infrastructure urbaine, au même titre que d'autres. Donc, ce sont souvent des espaces isolés les uns des autres, pas du tout intégrés dans une trame, dans une cohérence à l'échelle de la ville ou de l'agglomération.
Effectivement, il y a des efforts qui sont consentis, de plus en plus d'efforts. Je ne sais pas si c'est sous la pression des changements globaux ou peut-être plus sous la pression aussi de la demande des citadins. Mais effectivement, motivé derrière par les changements globaux. Mais je rejoins assez Francesca sur le fait que effectivement, les espaces de nature que l'on va laisser naturels, eh bien, c'est des espaces qu'on ne peut pas construire. Et on le voit également à Tours, les zones où on réintroduit du maraîchage aujourd'hui au sein de Tours Métropole Val-de-Loire, ce sont des espaces qui sont en fait inondables et où on ne peut pas construire.
Ce sont souvent effectivement des espaces inconstructibles, soit parce qu'il y a effectivement des risques naturels comme le risque d'inondation, ou parce que ce sont des espaces tout à fait à proximité de voies de communication.
Il y a trop de nuisances.
Trop d'autoroutes ou voies ferrées. Donc souvent, les jardins collectifs, on les installe dans ces bandes un peu longitudinales, comme ça, qui jouxtent des voies de communication, donc des surfaces qui ne sont pas constructibles.
Ceux qui sont en charge des espaces verts, ils sont conscients qu'il y a une prise de conscience de la part des promoteurs, etc., de cette nécessité d'intégrer la nature. Mais souvent, en fait, ils sont mobilisés en dernier, en fait. Et donc, du coup, ils se sentent un petit peu... on les intègre, mais à la marge, en fait, finalement. Donc, il y a une moindre... Enfin, la prise en compte de la nature apparaît comme secondaire, finalement. Elle continue à être secondaire, même si je suis tout à fait d'accord, il y a des évolutions en cours.
Alors, je reviens sur l'idée d'être en zone inondable, parce qu'il me semble que le quartier où nous sommes est une zone inondable. On peut penser aussi à Jakarta, qui s'enfonce dans les eaux. Mais au demeurant, dans ces zones inondables, il y a souvent des populations défavorisées aussi. Donc, là, pour le coup, quand on s'intéresse à l'urbanisme, peut-être quand on enseigne aussi... à des étudiants qui vont avoir à traiter ces questions-là. Comment on présente ces choses-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Comment on essaie de trouver pas forcément des solutions, mais comment on essaie d'avancer avec des générations plus jeunes?
Il se trouve que j'ai un peu travaillé sur cette question de la submersion marine. Alors, sans même aller jusqu'à Jakarta, donc Recife, c'est un cas... très, très emblématique, puisque c'est une des villes au monde qui est le plus exposée au risque de submersion. Mais sans aller non plus jusqu'à Recife, simplement Bordeaux. Et si on reste sur la tendance actuelle de montée de la température, avec la montée des mers, du niveau de la mer qui s'ensuit, on peut se retrouver, en l'absence de réponse donnée à ce problème, on peut se retrouver avec la place des quinconces sous un mètre d'eau en 2100. Ça a été très directement calculé par une équipe américaine qui travaille sur les conséquences du changement climatique. Derrière ça, on voit les enjeux qui émergent, c'est le cas de le dire, les enjeux en termes d'aménagement urbain. Et une des réponses qui semble quand même une des voies de réponse qui semble intéressante, que l'on observe dans certains cas dans le monde, en Chine en particulier, mais aussi en Grande-Bretagne, dans d'autres endroits, c'est finalement d'essayer d'apprendre à vivre avec l'eau et de ne pas chercher à combattre systématiquement la montée des eaux, mais d'en tirer parti en laissant éventuellement l'eau entrer sur certains territoires et au contraire en protégeant d'autres. C'est un peu le concept de ce que les Chinois appellent la ville éponge. C'est-à-dire qu'on laisse l'eau rentrer sur le territoire, mais on en contrôle évidemment la pénétration. Et on ne cherche pas à ériger des digues à tout crin partout qui seront tôt ou tard submergées à leur tour.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il y a une culture du risque et c'est ce que j'essaie aussi de faire comprendre à mes étudiants, c'est que le risque, il n'est pas perçu de la même façon. Le risque d'inondation n'est pas perçu de la même façon selon les cultures. Et certains vont plutôt même en tirer profit. Si on prend l'Asie où l'inondation, elle fait partie du quotidien, eh bien on vit avec et on en tire profit aussi puisque l'inondation, elle va être nécessaire pour la riziculture. Elle va aussi fertiliser les terres. Donc l'inondation, elle peut être aussi bénéfique. En France, peut-être que le risque inondation, on a eu tendance à le nier pendant un temps. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience et la problématique de l'inondation est désormais davantage prise en compte dans l'urbanisation. Ce qui était moins le cas auparavant, mais aujourd'hui, il y a quand même une prise en compte qui est plus grande. Voilà, mais pour autant, effectivement, il faut peut-être aussi parfois vivre avec le risque.
Oui, moi, je pense qu'en termes d'urbanisme végétal, il y a énormément de connaissances qui, au fur et à mesure, s'accumulent, qui se développent. Et c'est ça qu'on enseigne, effectivement, aux étudiants. Maintenant, les réalisations sont toujours filtrées un peu par un peu des opportunités économiques, par les acteurs que sont les promoteurs. Hein. Mais par exemple, j'ai évoqué la question de la gestion alternative des eaux pluviales. On connaît de plus en plus des choses sur le fonctionnement aussi hydrologique des villes et aussi dans, sur l'opportunité que peut représenter la nature en ville pour gérer, pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'hydrologie. Mais après, les réalisations... la mise en pratique, ben, ça représente des coûts, ça représente une approche différente et c'est ça qui pêche. Hein. Ce n'est pas... Les connaissances se développent, hein. C'est les... leur application qui prend du retard, disons. Qui n'est pas au rendez-vous en tout cas. Oui.
Mais il y a aussi une demande sociale de nature qui s'affirme, beaucoup, de façon beaucoup plus nette. Hein, parce que bon, mon âge me permet d'avoir un certain recul et je me souviens qu'à une certaine époque, quand on construisait une grosse infrastructure ou une digue par exemple, on présentait ça comme quelque chose de très noble et de très, très valorisable. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus distancié par rapport à tout ça.
Peut-être je peux rebondir sur cette question de l'inondation. Elle nous montre aussi que finalement, la nature, elle est souhaitable, elle est bénéfique, elle rend de nombreux services, mais elle est aussi source de disservices, puisque cette inondation, c'est lié à la nature et ça représente un risque. C'est aussi le cas pour le végétal en ville, hein. Ça peut être source de disservices, donc de mauvais services, d'inconvénients pour le citadin. Ça va être les feuilles qui vont tomber, ça va être la boue qui peut être gênante. Enfin, ça peut être aussi l'animal en ville qui peut aussi être nuisible, enfin, nuisible qui peut être mal perçu. Donc il faut aussi considérer que, enfin, on a beaucoup insisté jusqu'à présent sur les services, l'avantage qu'apporte la nature dans la ville, donc le désir du citadin d'avoir plus de nature en ville, mais en même temps ça peut être également source d'inconvénients qu'il faut aussi prendre en compte, et on le voit avec le cas de l'inondation.
Alors est-ce qu'on peut dire que la nature, finalement, en tout cas la nature en ville, ça peut aussi être un lieu, en beau français, d'empouvoirment des habitants? Est-ce que là, ça peut être vraiment un enjeu intéressant pour les habitants?
Ah oui, il y a des exemples dans lesquels effectivement les habitants sont intervenus pour se sont organisés pour s'approprier de certains espaces de nature en ville, parfois des délaissés qui en sont devenus des jardins par exemple. Il y a plusieurs espaces, plusieurs exemples de ce type dans des villes à la fois en Europe et au Brésil.
On a des exemples dans le livre.
Et disons que dans ce cas-là, ce qui serait Ce que nous serions en droit d'attendre, c'est que les pouvoirs publics accompagnent ces usages spontanés qui s'organisent, cette action spontanée des habitants.
Il faut se remettre dans le contexte brésilien, où l'appareil d'État est quand même défaillant dans beaucoup de domaines. Et donc, très souvent, que ce soit pour rendre des services publics, pour réaliser des aménagements, ce sont les initiatives citoyennes qui sont déterminantes à travers ce que les Brésiliens appellent les ONG, les organisations non gouvernementales, ce que nous appellerions tout simplement les associations. Ici, on a un mouvement associatif extrêmement fort au Brésil, des dynamiques de quartier où les populations se rassemblent pour effectivement occuper un espace, d'ailleurs dont on ne sait pas à qui il appartient, ou les titres pour lesquels la propriété foncière n'est pas régularisée, et qui vont procéder à des aménagements, à des verdissements, à des mises en culture, différentes initiatives de tout ordre. Hein.
Non, je disais juste qu'à Tours, par exemple, on connaît le cas des jardins familiaux de Febvot, c'est des jardins collectifs qui ont été finalement appropriés par la population. Il y avait un projet d'urbanisation qui n'a pas été mené à bout parce qu'il y a une organisation, un mouvement de la part des habitants de ce quartier pour avoir des jardins collectifs à cet endroit-là.
Alors, dans la perspective électorale qui se profile à l'horizon, est-ce que vous pensez que toutes ces questions, ça devrait être un enjeu majeur?
C'est-à-dire que là, si on parle d'élections nationales, C'est vrai que, alors, aux élections nationales, il y a les grands thèmes qui peuvent émerger, bien sûr, et peuvent ressortir, hein, liés aux réponses qu'on va apporter au changement climatique. Est-ce qu'il faut des éoliennes ou pas? Enfin, voilà le genre de débat qui se profile aujourd'hui et qui est complètement tronqué, d'ailleurs. En fait, moi, je pense que c'est par des réponses décentralisées, principalement. On peut avancer dans ces domaines. Et donc, si on se place sur le terrain local, c'est surtout au niveau local ou régional qu'on peut vraiment débattre de ces questions-là.
Alors maintenant, tous les candidats vont pouvoir dire qu'avec eux, la ville sera plus belle et plus verte. Mais on peut ne pas les croire, hein, quand même, hein, parce que bien de ces candidats, on les a vus à l'œuvre, aux responsabilités, à différents échelons, à différents postes. Non, moi, ce que je pense, c'est que pour qu'il y ait vraiment un verdissement des quartiers, notamment des quartiers populaires, il faudra des mobilisations, effectivement, même pour une chose aussi simple, on peut dire, finalement, hein, que le fait d'avoir de la nature près de son lieu de vie.
L'enjeu, il est effectivement important. Donc effectivement, je soulignais que la nature, elle peut avoir des inconvénients, mais elle a aussi quand même de nombreux avantages. Elle rend de nombreux services, elle participe au bien-être, ça va devenir des lieux de sociabilité, de partage, d'apprentissage. Mais c'est aussi bien atténuer le changement climatique, c'est aussi participer à la qualité de l'air, c'est atténuer l'effet d'îlot urbain, hein, donc atténuer la chaleur qu'il peut y avoir dans la ville. C'est aussi, si on plante du végétal, hein, si on plante des végétaux, eh bien, ça va permettre de réguler aussi les eaux, donc de limiter aussi les inondations. Donc il y a de nombreux enjeux et la prise de conscience.
Et alors, dernière question, à votre avis, quel est votre rôle de chercheur, donc d'expert, dans ces questionnements?
Je pense que notre rôle, il est important pour attirer l'attention des élus. Et notamment, dans les projets de recherche que l'on a au sein de CITER, on a souvent des projets qui se tournent vers l'opérationnalité et qui servent justement à attirer l'attention des différents acteurs. Notre rôle, je pense qu'il est là.
Je dirais que notre rôle, il se situe à trois niveaux. Un premier niveau de diagnostic. Un diagnostic d'une situation et des problèmes liés à cette situation. Deuxième niveau qui est celui de la... Évidemment, tout ça, c'est lié. Hein. Deuxième niveau qui est celui de la définition des grands enjeux auxquels il faut apporter des réponses. Et troisième niveau, ce n'est pas de... Là, ce n'est pas notre rôle, c'est l'autre d'autres instances. Ce n'est pas de préconiser des solutions clés en main, mais c'est de définir des orientations pour l'action. Et la dimension de l'action doit être incluse dans notre réflexion. Et donc, on doit éventuellement suggérer des orientations. Après, il y a des systèmes techniques et autres qui peuvent concrétiser ces orientations. Mais c'est quand même notre rôle, avec les citoyens, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, avec les citoyens, de formuler des propositions d'orientation pour l'action.
Et peut-être c'est ce qui ressort finalement des deux ouvrages. Faire nature en ville pose notamment le diagnostic et la transformation urbaine au prisme de la nature propose des pistes possibles pour renaturer la ville.
Moi, oui, je pense que si aujourd'hui on connaît quand même quelque chose sur cette nature en ville, son intérêt sur le plan de la biodiversité, ses caractéristiques botaniques, on connaît quand même quelque chose sur ses usages, les représentations qu'en ont certains habitants, etc. C'est aussi parce que depuis quelques années, il y a de plus en plus de recherches là-dessus. Donc notre travail contribue aussi au développement des connaissances sur cet objet qu'est la nature en ville, qui a effectivement un intérêt pour les habitants des villes de façon large.
Alors pour terminer cette émission, on peut évidemment recommander à nos auditeurs, citoyens, étudiants, peut-être politiques qui nous écoutent, sait-on jamais, la lecture de ces deux ouvrages, La transformation urbaine au prisme de la nature et Faire nature en ville, paru chez L'Harmattan. Il me reste à vous remercier tous les trois pour le temps accordé à cette émission. Merci beaucoup Jean-Paul Carrière, Francesca Di Pietro et Amélie Robert d'être venus nous présenter ces deux ouvrages et vos travaux au sein de votre unité du laboratoire CITER.
Merci à vous.
Merci.
Et on va se quitter en écoutant un nouveau choix musical. Alors, de quoi s'agit-il ?
Bah, on peut écouter Paris Combo, peut-être.
Alors, on écoute Paris Combo et on vous souhaite à tous la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes.
Je suis pilé, je suis face, tendre sous ma carapace, j'offre mon dos aux turbulences et mon repli face aux violences. Mon visage tourné vers ceux qui, comme moi, aiment le moelleux, j'empile des bouts de ciel, j'efface les images qui en appellent au carnage. Je suis face d'un subtil jeu de passe-passe. Un jour off, l'autre jour on. Je m'éteins toujours quand on me sonne. Tourne dos au télécom. Je suis zéro pointé point com. Dans les cercles internes autochtones, on m'a déjà sacré. Ni soumise, j'ai le contact amusant sans mettre les doigts dans la prise. J'aime me tenir au courant. Je suis pas en artifice, je suis strictement marron. Quand on me parle maléfice, je me sens plutôt ange blanc.